strada innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini.
Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureuses de vous accueillir en direct de la scène nationale de Bourg-en-Bresse sur les bonnes ondes de Radio B dans le cadre de la quinzaine du deuil pour cette rencontre avec Lauriane Rivet, coordinatrice de l'événement et conseillère conjugale et familiale au sein de l'association Couple et Famille de l'Ain. Nous recevons aujourd'hui Serena Giuliano, autrice italienne installée en France depuis de nombreuses années. Vous la reconnaissez sans doute à travers plusieurs de ses romans qui mêlent profondeur, humour et sensibilité. Serena Giuliano, bonjour.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Avec Felicita, vous abordez un sujet qui nous touche toutes et tous. Comment traverser le deuil et continuer d'avancer, de vivre, de trouver du sens dans l'existence quand on perd un être cher? Pour nous plonger immédiatement dans l'ambiance, en introduction de nos échanges, Lauriane, tu as choisi un extrait du livre qui illustre bien cette manière que vous avez, Serena, de poser des mots simples et justes sur des émotions à la fois intimes et universelles. Lauriane ?
En effet, Serena, vous rentrez de suite dans le vif du sujet dès les premières phrases du livre. Le soleil brille comme jamais, non mais comment ose-t-il ? Le ciel devrait être à mon image, en larmes. Il devrait pleuvoir comme je pleure, pleuvoir tout ce qu'il a dans le ventre, gronder, afficher une sale mine. Il m'est tombé sur la tête il y a 48 heures, pourtant il a déjà repris sa place. Tout bleu, tout beau, comme si de rien n'était, comme si on pouvait continuer de vivre alors que je n'arrive plus à respirer.
Alors le ciel qui lui est tombé sur la tête, c'est la mort de sa meilleure amie, donc l'héroïne Valentina vit un deuil. Serena, qu'est-ce qui vous a amené à explorer ce sujet ?
Eh bien, je trouve qu'on traite le deuil de manière générale assez souvent dans la littérature, mais pas le deuil amical. C'est quelque chose dont on parle assez peu. Et moi, c'est une de mes plus grandes peurs de perdre une de mes meilleures amies, qui sont en fait plus des sœurs que des amies, et sont des vrais piliers dans ma vie. Et comme je suis quelqu'un qui a tendance à imaginer des choses terribles, je dramatise beaucoup, donc ça m'arrive de les imaginer mortes. Donc je me dis... J'ai envie de parler de ça, de ce vide que ça peut laisser, à quel point on peut être désemparé, de perdre du jour au lendemain quelqu'un qu'on aime si fort. Et à la fois, on n'est pas de la famille, on n'est pas... on a presque pas le droit de souffrir aussi fort qu'un membre de la famille. Enfin, et j'avais envie d'explorer ça. Alors, je ne savais pas encore comment quand j'ai commencé à écrire. C'est les premiers mots du livre que vous avez lu. Et je me suis laissée emporter par Valentina et j'ai découvert ça avec elle.
Alors, vous l'avez dit, la particularité du deuil de Valentina, c'est qu'il s'agit de la mort de sa meilleure amie, qu'elle connaît depuis l'enfance. Or, dans notre société, et vous le dites bien aussi dans Felicita, c'est un deuil qui n'est pas reconnu. Lauriane, tu nous en dis plus ?
Bien sûr, Perrine. La loi française, elle dit que la durée du congé varie selon le lien de parenté avec la personne décédée. C'est les termes exacts qu'on trouve sur le site servicepublic.gouv.fr. En d'autres termes, une personne proche est forcément un membre de la famille. Alors qu'on le sait, comme vous l'avez bien dit aussi, on peut être aussi plus proche de nos amis que de certains membres de notre famille. D'ailleurs, on dit souvent que les amis, c'est la famille qu'on s'est choisie. Ce qu'il faut retenir dans le deuil, c'est bien le lien affectif qui prime et pas le lien de parenté. Et il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur liée au deuil.
Merci Lauriane. Donc on comprend bien que la mort d'une amie n'est pas reconnue. On se demande alors comment aller mieux quand on ne nous donne pas le temps de nous remettre. Vous, Serena, qu'avez-vous imaginé pour votre héroïne qui est chef d'entreprise mais qui en plus organise des événements joyeux, des mariages? Quelles ressources vous lui avez données? C'est quoi son chemin, de résilience?
Eh bien justement, en fait, comme elle est wedding planner, elle organise des mariages, je voulais explorer ce contraste entre sa peine immense et la joie des mariages et de ces événements qu'elle ne peut pas laisser tomber. Elle doit continuer à vivre, à organiser le plus beau jour de la vie des gens qui lui ont confié leur mariage, quoi. Donc c'est pas quelque chose qu'on reporte, c'est pas quelque chose qu'on repousse. Et je me disais qu'elle allait vivre au milieu de gens qui étaient pleins de bonnes ondes, de félicitas, de joie, de bonheur, alors qu'elle, elle traversait la pire période de sa vie. Donc je voulais exploiter ça. Je me suis dit que ça allait l'aider finalement à continuer à garder la tête hors de l'eau et éviter qu'elle tombe peut-être dans une dépression, dans quelque chose de très sombre. Donc son travail l'aide à rester, à fonctionner, quoi. En tout cas, elle est obligée de continuer pour eux. Et les ressources que je lui ai données, c'est l'humour, déjà, l'amour profond qu'elle porte à la fille de sa meilleure amie disparue, et une façon, en fait, finalement, de continuer à faire vivre leur histoire d'amitié grâce au récit qu'elle offre à sa, j'allais dire sa nièce, mais sa filleule.
Voilà. Du coup, dans votre processus créatif, ce grand écart émotionnel, comment vous avez réussi à le traiter ?
Moi, je découvre mes histoires au fur et à mesure que je les écris. Donc, je ne réfléchis pas avant, je ne fais pas de plan, je ne sais pas où je vais. Donc, je me suis laissée porter. Je savais qu'il allait y avoir des mariages qui allaient rythmer le roman, mais je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas... je me suis laissée porter. Les personnages secondaires sont très importants puisqu'ils sont finalement les respirations, la joie du roman au milieu de toute la tristesse et du vide qu'elle ressent. Et voilà, en fait, finalement, c'est mes personnages qui m'embarquent, c'est eux qui me guident et c'est eux aussi qui me surprennent par les ressources qu'ils ont face à ces chagrins.
Et pour rebondir sur le deuil d'une meilleure amie, c'est pas seulement une question de temps, ce deuil d'une amie. Il y a aussi un problème du coup de légitimité à vivre au grand jour ces émotions. Et Serena, vous faites d'ailleurs dire à Valentina, quand on assiste à la souffrance des autres, on relativise la sienne. Moi-même, j'ai comparé mon chagrin à celui de Federico ou à celui du père d'Azura. Perdre sa femme ou sa fille, n'est-ce pas plus atroce que perdre sa meilleure amie ? Dans ce passage, du coup, on se rend bien compte que Valentina, elle semble avoir intégré cette hiérarchisation de la douleur.
Oui, elle compare forcément, parce que quand on va mal, on est assez égoïste, on voit que ce qu'on ressent très fort, et finalement, elle est obligée d'assister au chagrin du mari d'Azura, de sa fille, et elle se dit, ok, c'est dur pour moi et je l'accepte, mais est-ce que je suis légitime finalement ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir si mal alors que eux, quelqu'un a perdu la femme de sa vie, quelqu'un a perdu sa mère, sa fille ? Oui, dans notre société, forcément, ça nous semble être plus grave que la perte d'une meilleure amie, même si elle est son double depuis l'enfance.
Et la non-reconnaissance du deuil d'une amie peut renforcer la douleur de la perte. Serena, est-ce que vous pensez que la littérature peut aider justement à briser certains tabous autour du deuil ?
J'en suis sûre, parce que j'ai une amie qui a vécu une perte très, très douloureuse il y a quelques années. Mon premier réflexe a été de lui offrir un livre. Parce que peut-être je me disais, elle ne va pas le lire tout de suite, mais un jour, elle aura envie de l'ouvrir et peut-être qu'elle y trouvera un soutien. Il n'y a pas de recette magique pour aller mieux. Mais en tout cas, si on arrive dans les mots des autres à se retrouver, à se dire on n'est pas seul, un jour ça ira mieux, ça fera moins mal, eh bien ça rassure. Et je crois que quand on traverse un deuil, on a besoin de se retrouver, d'être entouré de gens qui comprennent ou qui ont vécu à peu près la même chose. Et je me suis rendu compte aussi avec Felicita du nombre de retours de lecture que j'avais en ce sens. Ça a fait peur à certains, le thème du deuil, mais finalement, ça a aussi rassuré beaucoup de lecteurs. Ils m'ont dit, voilà, ça m'a fait du bien. J'ai vécu cette perte, que ce soit d'une meilleure amie ou d'une sœur. Peu importe, finalement, le deuil, y a quand même ce truc universel qui nous unit, cette douleur qui unit tous ceux qui ont perdu un être cher. Et j'ai eu énormément de retours positifs de lecteurs qui m'ont remercié d'avoir abordé ce sujet, qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien, que je leur avais aussi donné des idées, par exemple d'écrire dans mon livre, mon héroïne ouvre une boîte mail pour la fille de son amie décédée et elle lui raconte leur histoire d'amitié. Et oui, beaucoup ont repris cette idée et c'est devenu une sorte d'exutoire. Et puis finalement, de mettre des mots par écrit, c'est aussi les ancrer, les faire exister. Et finalement, ça devient une sorte de thérapie. Donc moi, j'ai eu vraiment que des retours positifs et de gens qui se sont sentis compris et rassurés aussi.
Alors, on fait une petite pause musicale, déjà tout de suite. On revient tout de suite après 1000 vagues de Feu Chatterton, qui parle justement du deuil.
Quelques jours à peine, difficile de croire que tu n'es plus là. Un soir de déveine, foutu hasard, enfin, c'est comme ça. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent. Mille vagues te renversent, tu ne connais plus la peur. Je relis à peine ton dernier message qui dit à demain. Demain éternel, ton nouveau rivage, si proche et si loin. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent. Tu ne connais plus la peur. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues nous traversent, mille vagues. On ne connaît pas l'après. Je fais les tiroirs de ma mémoire pour te trouver, toi. Ce dont je me rappelle, maintenant qu'il fait noir, je le garde pour moi. Je te garde pour moi.
Alors, on revient sur la scène du théâtre de Bourg-en-Bresse, toujours en compagnie de Serena Giuliano et en direct sur Radio B. Serena, qu'est-ce qui vous importait le plus ? Raconter une épreuve ou raconter la façon dont on avance malgré elle ?
Oui, là, clairement la façon dont on avance malgré elle, parce que la vie, elle est faite d'épreuves. Et je me dis toujours, comme on n'a pas d'emprise sur ce qui va nous arriver, puisqu'on va forcément, à un moment donné, traverser des choses difficiles, le seul moyen de contrôle, enfin, la seule chose qu'on a, c'est de savoir comment on va vivre ça, de gérer personnellement l'épreuve. Donc, je voulais... je me suis mise à la place de Valentine. C'était terrible parce que pendant toute l'écriture, j'ai imaginé toutes mes amies décédées au fur et à mesure. C'était horrible. Donc, je leur écrivais encore plus tous les jours et ça m'a permis de vraiment de leur dire justement des choses qu'on ne se dit pas forcément parce qu'on se dit qu'on a le temps et que voilà. Et donc, par le biais de mon héroïne, me dire voilà, comment je réagirais face à cette perte. Et j'ai beaucoup appris grâce à elle. Et ça m'a aussi permis de me rassurer quelque part, de me dire oui, on peut s'en sortir, on peut continuer à vivre malgré de si grands chagrins.
Okay. Donc dans le livre,
Azura
et donc est morte. Elle avait une fille, Bianca, qui est la filleule de l'héroïne, Valentina. Et Valentina, donc vous l'avez dit tout à l'heure, écrit des mails à sa filleule pour lui partager des souvenirs de sa maman que l'enfant pourra consulter à sa majorité. Serena, vous proposez aussi aux lecteurs, aux lectrices d'écrire à Bianca et à Valentina et vous leur donnez les adresses mails. Vous en recevez des mails ?
Oui, alors j'ai créé ces adresses mail. Déjà, j'ai eu l'idée, je voulais en parler à la naissance de ma nièce. J'ai eu ma première nièce il y a 2 ans et demi, et puisque j'ai toujours été plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, je me suis dit, j'avais tellement d'amour déjà pour cette petite fille, je me dis, j'ai peur de ne pas réussir à lui dire à quel point je l'aime, de ne pas réussir à lui raconter certaines choses qui me tiennent à cœur. Donc j'avais créé cette adresse mail à sa naissance. Et j'ai offert ça à mon héroïne. Je me suis dit, ça peut être un joli cadeau à faire en fait à quelqu'un qu'on aime, d'écrire au fur et à mesure qu'on ressent les choses, et puis d'un jour dire voilà, tout est là, tu as le choix d'aller lire ou pas. Et à la fin de l'écriture, mon éditrice me dit, ces adresses mail, on pourrait les créer, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé ces 2 adresses. Je n'imaginais pas une seconde. En fait, j'ai réalisé le jour de la sortie, le soir, qu'il y avait déjà, je ne sais pas, 50, 100 mails. Et je ne m'attendais pas à tout ça. Je pensais très naïvement, au départ, pouvoir répondre à tout le monde. Et aussi, je pensais recevoir des retours de lecture. Et j'ai très vite réalisé qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. Parfois, c'est des mails très personnels qui ne sont pas destinés, qui sont destinés ou à mes héroïnes ou à des proches disparus. En fait, les lecteurs ont trouvé, par le biais de ce mail, un moyen de leur parler. Enfin, et très vite, du coup, j'ai déjà dû prendre de la distance parce que c'était parfois très douloureux à lire et que j'étais pas... On n'est pas toujours disposé à lire ou à entendre le chagrin des autres. Donc, j'ai commencé à lire que de temps en temps, quand j'étais prête à affronter ces émotions-là. Et puis, comme j'ai réalisé très vite que c'était un peu intrusif parce que ça ne m'était pas destiné, je ne lis pas tout. Parfois, parce qu'il y a des choses très belles, je pioche dans les... Maintenant, il y a des milliers de mails sur cette boîte. Donc, j'en ouvre quelques-uns parce que ça m'inspire et parce que je trouve ça très beau et parce que ça me nourrit aussi. Mais sinon... En fait, je laisse ça de côté parce que ça me dépasse et ça ne m'appartient pas. Mais je suis heureuse que les lecteurs ou les lectrices aient trouvé un endroit où poser leur mal-être, leur chagrin. Parfois, c'est aussi très joyeux. Hein. Parfois, c'est vraiment des lettres destinées à des gens. Et je trouve ça... Enfin, vraiment, ça partait d'une... Ce n'était pas censé devenir ça, mais je suis très heureuse de ce que c'est devenu.
Ok, c'est devenu un outil un peu de, oui, pour parler de son deuil, quoi.
Okay. Oui, c'est un lieu où on dépose en tout cas quelque chose, où on fait exister, où on raconte ce qui a été, et je trouve ça très beau.
Et on le disait tout à l'heure, oui, c'est qu'en fait, ça manque énormément dans notre société, puisque le deuil reste vraiment un sujet tabou, donc c'est essentiel. Donc,
oui, c'est ça. C'est hyper tabou, et alors que les personnes en deuil ont besoin d'en parler. Quand on a le manque très fort de quelqu'un, les autres n'osent pas parce qu'ils ont peur de réveiller ce chagrin-là, mais le chagrin, il est là de toute façon. Et au contraire, de parler des gens qui sont disparus, qui ne sont plus là. Moi, je fais ça avec ma grand-mère, elle est partie à 12 ans et j'ai encore besoin d'en parler tout le temps, de la faire exister, de continuer à la faire vivre. Et au contraire, c'est, oui, ça réveille des choses, des émotions, mais ce n'est pas forcément négatif. Et de parler du deuil, de parler des personnes disparues, je pense que ça peut être que bénéfique au final.
Ça résonne vraiment ce que vous dites, Serena, parce que donc nous, on anime des cafés deuil à l'association Couples et Familles de l'Ain, et les personnes qui viennent, elles viennent nous raconter la relation qu'elles ont eue et qu'elles ont encore intérieurement avec leurs proches décédés, et avec aussi ces paroles de dire... justement, là, je peux en parler, alors que j'ose plus en parler, je peux plus en parler au sein de ma famille ou même avec mes amis ou mon entourage, parce que juste des fois de prononcer le prénom, ça, on sent qu'il y a un malaise, oui. On sent qu'il faut pas aller remuer le couteau dans la plaie. Alors justement, pour ces personnes, c'est pas remuer le couteau dans la plaie, c'est justement cette plaie-là, la nettoyer et puis la faire cicatriser.
En fait, c'est un process.
C'est le processus de deuil.
On ne peut pas avancer dans le deuil si on met tout sous le tapis.
C'est ça.
On est obligé de verbaliser. En fait, les mots, ça permet de, encore une fois, de faire exister et de continuer à faire vivre aussi. Donc, je trouve que c'est hyper important. Je ne dis pas que c'est facile. Je comprends aussi ceux qui ont du mal, pour qui c'est vraiment trop douloureux, et je pense qu'il y a un temps, enfin, que chacun en fait trouve son propre temps. C'est pour ça que, avec les réseaux sociaux d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais je trouve que parfois on juge aussi la façon de faire le deuil des autres. Moi, si j'étais à sa place, moi, si je venais de perdre tel ou tel parent, je pourrais pas retourner travailler, si je perds un enfant, je meurs, mais en réalité, la plupart des gens continuent de vivre, et surtout chacun avance à son rythme et à sa façon. Notre histoire ne va pas être celle du voisin, nos sentiments ne vont pas être ceux des autres, notre façon de processer, d'avancer quand on subit une perte comme ça ne va pas être celle de l'autre, mais on ne doit pas forcément juger. Et au contraire, je trouve qu'on peut apprendre aussi des autres, de leur manière de traiter le deuil, et c'est ce que fait la littérature aussi. Peut-être parfois on s'inspire des personnages en disant voilà, si elle y arrive, peut-être je peux y arriver aussi. Voilà, plutôt que de juger, que de dire moi j'y arriverai pas, moi je serai effondrée, moi je serai ce qu'on peut entendre aussi, mais peut-être que d'écouter les autres, même s'ils sont différents de nous, ça nous aide à avancer.
Alors d'ailleurs, même absente, Azura est un personnage très présent. Comment avez-vous imaginé sa place dans le récit?
Eh bien, les mails m'ont facilité un peu la tâche, parce que de raconter leur amitié, tout ce qu'elles avaient vécu. Et aussi, je ne voulais pas qu'Azura soit une sainte. On a tendance à tout pardonner aux personnes disparues. Enfin, en tout cas, les idéaliser. Or, jusqu'à ce qu'elle décède, elle était une personne comme tout le monde, et elle a fait des erreurs, elle avait des doutes, elle a parfois pas été à la hauteur, et tout ça, elle le raconte. Valentina, elle dit, elle veut que sa filleule sache que sa mère était une femme imparfaite, géniale, mais imparfaite, avec des doutes, des difficultés, des craintes. Et je voulais la faire exister en fait comme une personne vivante, toujours présente. Et c'est ce qui m'a aidée à justement ne pas la sacraliser, ne pas la rendre trop parfaite. Parce que c'est ce qu'on a quand même tendance à faire. D'ailleurs, son mari le dit à un moment, c'est fou qu'on a tendance à tout passer, ou à oublier en tout cas les mauvais côtés des personnes décédées. Or, ils ont existé, heureusement, en fait, parce que personne n'est parfait. Et c'est ce qui fait aussi la beauté et la complexité de leur relation d'amitié.
Alors Lauriane, derrière la démarche de Valentina, on aborde le thème de la mémoire. Est-ce que c'est important dans le processus de deuil ?
Tout à fait. Une des grandes craintes des personnes endeuillées, c'est justement d'oublier. Et se souvenir, c'est continuer de faire vivre ce lien. La peur de l'oubli, elle est très puissante. Ainsi, Valentina, en écrivant ses souvenirs, elle continue de faire vivre Azura, et pour Bianca, mais aussi pour elle, du coup. Et on peut dire que ça devient aussi une forme de rituel, ces mails, et puis tout ce que vous venez de dire, Serena, sur le fait que voilà, Azura, c'est aussi un personnage à part entière de l'histoire qui est vraiment là, pour le coup.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que cette peur d'oublier, moi, je l'avais justement avec ma grand-mère. Au départ, j'avais besoin d'aller sentir ses vêtements. Parce que ma crainte, c'était d'oublier son odeur, qui était mon odeur préférée au monde. Et j'avais même mis certains de ses vêtements sous plastique, parce que je me disais, comme ça, ça va garder l'odeur plus souvent. Et de temps en temps, j'allais prendre un petit shot de ma nonna. On veut que les choses... Ça fonctionne, mais ça ne dure pas. Et on est obligé d'aller chercher du réconfort ailleurs, autrement. Et pareil, je ne voulais pas qu'on touche à ses vêtements. Et puis un jour, il a bien fallu faire de la place parce que ça ne servait à rien de les laisser là. Elle n'allait pas revenir pour les mettre. Donc, en fait, juste de se dire ça, c'est faire un pas en avant. Et finalement, peut-être que le temps... Bien sûr, on ne peut pas tout se souvenir de tout. Il y a des choses qu'on va oublier. On va retenir que les belles choses. Et c'est bien comme ça. Mais je trouve que quand même, de temps en temps, il y a des petits rappels, justement des odeurs, des bruits, une chanson qui nous ramène tout de suite à la personne qu'on aime et qui n'est plus là. Mais je comprends la peur de l'oubli parce que aujourd'hui, je trouve ça super qu'on ait les téléphones et tout ça parce que ça permet de beaucoup filmer, d'avoir beaucoup de photos. Moi, je regrette de ne pas avoir assez de vidéos parce que j'avais peur d'oublier sa voix aussi. Et je me dis, là, ça n'arrivera pas avec tout ce qu'on... On prend tout le monde en photo, en vidéo tout le temps. Et du coup, les générations suivantes auront ça, au moins. Et c'est précieux parce que, oui, il y a des choses qui ne reviennent pas. Et à la fois, est-ce que c'est pas mieux quelque part? On ne reste pas figé et on avance quand même. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose et qui sont légitimes, je crois. Et chacun compose un petit peu avec ça.
Alors Serena, est-ce que, d'après vous, la littérature a un devoir de traiter des sujets difficiles, comme le deuil?
J'aime pas qu'on nous donne des responsabilités parce que, dans mon cas, l'écriture, c'est vraiment... au départ un acte égoïste. Quand j'écris, je ne pense à personne d'autre qu'à moi-même. J'ai besoin de me faire plaisir, de traiter des choses qui me tiennent à cœur, d'explorer des sujets qui me passionnent, de juste penser à qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et je crois que c'est parce qu'il y a cette démarche-là au départ qui est assez sincère et qui... Parce que si je voulais cocher les cases et plaire à tout le monde, bon, il faut traiter ça, il faut parler de ça, il faut qu'il y ait plus de ci, il faut que... Et dans ce cas-là, on ne s'en sort pas, ou alors le récit n'est pas sincère, il n'est pas honnête. Donc moi, au départ, je ne sais pas si on a une responsabilité, mais je n'ai pas envie de penser de cette façon. J'écris ce qui me tient à cœur, et je crois que parce que c'est sincère, à un moment donné, ça va toucher le cœur des gens, et que c'est après, avec les retours, que je réalise l'impact que mes mots ont sur les autres. Mais... ça reste de l'art, ça reste une... Voilà, j'ai pas envie qu'on donne cette responsabilité parce qu'elle est trop grande, trop importante. Et donc je préfère penser assez égoïstement au départ, de partir de moi pour ensuite arriver aux autres, plutôt que de me dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et j'ai peur de mal faire et du coup de décevoir. Et donc j'agis à l'inverse.
Alors, comment ils arrivent, ces sujets, justement? Est-ce que c'est comme une évidence, une épiphanie?
Souvent, ça part d'une émotion, justement, d'une positive ou négative. Parfois, c'est une grosse colère, parfois, c'est un trop plein d'amour, parfois, c'est un sujet d'actualité. Un jour, voilà, j'ai une héroïne, parce que c'est jusque-là des femmes, qui s'impose, elle me dit, voilà, il m'arrive ça. Est-ce que tu racontes mon histoire ? Donc elle s'impose un peu avec ses valises dans ma tête. J'apprends pendant longtemps à la connaître, donc elle reste que dans ma tête, dans un coin de mon esprit. J'y pense tous les jours, de plus en plus, jusqu'au jour où je me dis, bon, OK, on va y aller, on va voir ce qu'on peut en faire. Mais au départ, c'est vraiment une émotion très vive ou un sujet qui me révolte, des choses qui me révoltent, la condition des femmes souvent. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire de cette colère-là, de cette... Très longtemps, j'ai gardé mes émotions pour moi et je déconseille. Vraiment, c'est pas bon. Donc maintenant, j'essaie d'en faire quelque chose de constructif. Et surtout que je me rends compte que c'est pas des choses que je ressens toute seule, qu'il y en a plein comme moi qui ressentent la même chose. Et donc, j'essaie de raconter des histoires et d'exorciser comme ça. Et puis finalement, je me rends compte que ça touche plein de monde.
Et je suis curieuse par rapport à ce personnage qui arrive dans votre tête. Et à ce stade-là, elle a un prénom, elle a une voix. Comment ça se passe exactement ?
C'est assez différent d'un roman à l'autre. Valentina, oui, elle avait son prénom. Moi, je les imagine très... Enfin, ils ont un visage, ils ont une personnalité, ils ont... C'est pour ça que je décris mes personnages assez peu, parce que je veux que chacun puisse se projeter. Et que finalement, peu importe le physique, je veux vraiment raconter ce qu'ils ont dans la tête, dans le cœur, dans le ventre. Et donc, dans le cas de Valentina, je savais qu'elle avait perdu sa meilleure amie, je savais qu'elle était wedding planner, parce que c'est un travail que j'admire. Je me dis, moi qui suis très désorganisée, je me dis, il faut être hyper solide quoi, pour faire ce genre de métier, d'organiser, enfin des mariages, a priori, on n'en fait qu'un ou deux dans la vie. Donc tout repose sur ses épaules. Il faut que ce jour-là soit incroyable. Et donc, ça me fascinait d'explorer ça. Et justement, un métier que je ne pourrais jamais faire parce que je ferais foirer tous les mariages. Ce serait terrible. Et donc, elle avait en tout cas un métier, ce chagrin, ce deuil. Et je savais qu'elle aimait le lac de Côme. Voilà, c'est tout ce que j'avais au départ. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris à la connaître. Et parfois, c'est drôle parce que mes personnages me surprennent. Enfin, ils font des choses que je n'avais pas prévues. Donc alors, ça ne m'arrange pas toujours. Mais c'est hyper excitant de vivre au jour le jour avec eux et de ne pas savoir ce qui va se passer à chaque jour quand je me mets à écrire et de me laisser complètement emporter. Et j'adore ça. C'est hyper stressant, mais c'est hyper excitant aussi.
Alors, je vais vous lire un nouvel extrait de Felicita. Cela fait un mois que ma vie a basculé, un mois que je vis avec une douleur constante sur la poitrine et un trou béant dans le cœur. Les premiers jours, la souffrance était telle qu'il m'était impossible de m'extraire du lit. J'ai dû me mettre en arrêt pendant une semaine, c'est le délai qu'on m'a imposé pour guérir de cette maladie qui vous broie le cœur, qui vous coupe l'appétit et dresse un barrage dans votre gorge, qui vous fait oublier la façon dont on sourit. Le deuil, ça s'appelle. Lauriane, tu nous décris les grandes étapes du deuil en lien avec le roman ?
Alors, le docteur Christophe Fauré a défini quatre grandes étapes dans le deuil. Tout d'abord, le choc et la sidération, puis la fuite et la recherche, suivi de la déstructuration. C'est le moment où la tristesse, elle prend le dessus sur tout. Et enfin, la quatrième phase, c'est la restructuration. C'est en gros reprendre le cours de sa vie. Mais c'est pas aussi linéaire que ça et les étapes peuvent se superposer. D'ailleurs, on le voit bien dans le cas, c'est le cas de Valentina. Elle traverse une multitude d'émotions et de sensations. Par exemple, elle se sent en décalage avec le reste du monde. Elle a l'impression de devoir gravir l'Everest alors qu'elle doit juste quitter son pyjama et se brosser les dents. Elle culpabilise quand le quotidien occupe ses pensées au point d'en oublier la mort de sa meilleure amie. Serena, vous décrivez très bien les émotions de la personne endeuillée. Comment êtes-vous arrivée à une telle justesse ?
Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est grâce à l'empathie, je crois. Heureusement qu'on est capable de raconter des choses aussi qui nous ont pas touchées de près. Mais j'arrive assez facilement, je crois, à me mettre dans la peau de mes personnages et je vis ça tellement fort avec eux que vraiment parfois le soir j'étais assez déprimée, je me disais j'avais l'impression d'avoir perdu de mes meilleures amies, donc j'avais la chance de pouvoir les appeler, de me consoler, mais j'arrive L'empathie, c'est pas toujours un super pouvoir. Parfois, c'est un gros boulet au pied. Parce que mon problème, c'est que j'arrive à comprendre même les gens qui ne méritent pas qu'on les comprenne. Et je cherche toujours à savoir ce qu'il y a derrière un comportement, même malsain, même mauvais. Et je me dis, c'est pas, l'être humain n'est pas comme ça. Donc pourquoi cette personne elle est devenue comme ça ? Donc j'essaie de comprendre. Bon, ça aussi, je déconseille parce que franchement, c'est sans fin. Et avec Valentine, c'était assez simple parce que c'est un sujet qui me... l'amitié, vraiment, a tellement de place dans ma vie. Les femmes de ma vie sont tellement importantes. C'est des vrais piliers que c'est assez facile pour moi de voir un des piliers s'écrouler et de me dire, mon Dieu, enfin, ce serait tellement terrible. Donc voilà, me mettre dans sa peau tous les jours m'a fait... là encore, c'était une démarche sincère. Je me dis, si je suis à sa place, comment je m'en sors ? Comment j'y arrive ? Et je crois que c'est pour ça que c'est assez juste, parce que ben, vraiment, dans ma tête, j'étais avec elle. Quoi.
Et du coup, avec cette difficulté à vivre ces émotions qui sont dures à ressentir, est-ce que vous avez trouvé quand même une forme de soulagement à la fin de l'écriture de ce livre, quand vous vous êtes dit « bon, c'est bon ». c'était ce processus-là d'écriture, mais...
C'est toujours un soulagement à la fin du livre, parce que je ne sais jamais si je vais y arriver. Mais dans ce cas-là, oui, d'autant plus. Mais même un soulagement personnel, dans le sens où... là encore, je me dis, si un jour ça m'arrive, je n'oublierai pas ce que j'ai écrit, ce que j'ai vécu au travers de mon personnage. Alors, je ne dis pas que je le vivrai de la même façon, mais en tout cas... Ça a été une façon d'exorciser cette peur de la perte d'un être cher. Je me dis, bon, je l'ai fait vivre à mon héroïne, un jour j'y serai confrontée de toute façon, et peut-être que j'irai puiser la force que j'ai trouvée en elle pour moi surmonter cette épreuve-là.
Donc est-ce que vous pensez que ce livre, avec ce livre, vous avez découvert ou revisité justement votre rapport au deuil, ou même à la mort de manière générale ?
Ça m'a permis de... Moi, ça me fait hyper peur, enfin, comme tout le monde, enfin, pour la plupart des gens, j'imagine, j'ai plus que de mourir moi-même, j'ai peur de perdre un être cher. Parce que ce vide-là, il me terrorise. Donc ça m'a rassurée, enfin, de parler des choses, de les faire exister, de communiquer sur les sujets douloureux, tabous, etc. Finalement, c'est... Ça peut être que bénéfique, parce que tant que ça reste à bout, tant qu'on évite d'y penser, qu'on essaie de mettre ça sous le tapis, ça nous revient d'autant plus fort au visage. Donc plus on en parle, plus on se documente, plus on réalise que d'autres sont passés par là, que bien sûr on s'en sort, que la vie continue, que le temps en tout cas fait son œuvre, que de continuer à vivre, même si pendant un temps c'est difficilement... c'est des épreuves que tout le monde vit, et donc ça peut être que bénéfique. C'est pour ça que oui, il faut en parler, il faut se documenter, il faut pas garder ça pour soi, parce que les autres, dans ces moments-là, ça peut être des personnages fictifs ou des vrais, peuvent vraiment être d'un grand soutien.
Donc en parler jusqu'où ? Tout à l'heure, on évoquait aussi l'idée de préparer sa propre mort.
Oui, je racontais tout à l'heure que justement, quand je ne sais pas si c'était quand j'ai écrit ce livre ou peut-être un peu avant, ben j'ai abordé mon décès avec mes amis. Et sous couvert d'humour, puisque je leur ai donné une liste très détaillée de choses à faire, mais vraiment, genre, j'ai donné un dress code et tout, enfin bref, c'est très précis, un programme en fait, et je veux qu'elles cochent les cases. Et bien finalement, j'ai fait passer des messages. J'ai dit, voilà, si un jour je ne suis plus là et que vous, oui, vous allez être dévastés, bien sûr, parce que je suis une personne formidable et que je ne serai plus là pour vous. Mais après ça, je veux que vous continuiez à avoir le rituel qu'on a tous les ans de se retrouver, que vous me fassiez vivre autrement, que je sois toujours là avec vous, que vous continuiez à me parler si vous avez besoin au quotidien, que vous m'écriviez peut-être. Donc ça a été une façon d'aborder sous couvert d'humour des sujets importants, parce que ça aussi, on a du mal à dire à nos proches, voilà, on parle de ma mort, de ta mort, puisqu'on va tous, on y va tous normalement, et que quand on y est confronté, c'est tellement douloureux qu'il vaut quand même mieux traiter ce sujet-là avant, de donner des directives. Dans notre société, c'est encore hyper tabou quand on en parle. C'est oh là là, non, on parle pas de ça parce que il y a cette superstition. Si on parle de la mort, ça va arriver. Mais ça va arriver de toute façon. Donc voilà, il y a pas de suspense. Juste comment on fait face à ça, comment on fait face au souhait de la personne qui s'en va. Je trouve que c'est hyper important. Moi, il y a des choses avec lesquelles je suis très au clair avec moi-même. Le jour où je meurs, je veux que certaines choses soient respectées. Et si on n'en parle pas, ben, les autres ne peuvent pas deviner. Donc forcément, j'essaye d'en parler à mes amis, à mon mari, à mes enfants, à ceux qui vont devoir prendre des décisions le jour où ça arrive. Et puis je veux que les autres me donnent aussi des clés pour le jour où moi je serai confrontée, où je serai obligée de prendre cette décision-là pour eux.
Oui, parce que c'est ce qu'on se disait aussi avant, on a eu cette conversation en fait avant l'émission, parce qu'on commençait un petit peu à échanger là-dessus, mais c'est pour soi, mais c'est aussi pour nos proches, pour qu'ils puissent aussi ne pas avoir peut-être cette responsabilité-là et cette charge malgré tout dans ces moments difficiles.
Oui, c'est presque un cadeau en fait de les guider, parce que j'imagine qu'il y a une telle charge de travail, de paperasse, de choses à faire, qu'on nous demande de faire tout de suite. Quand ça arrive, parce qu'il n'y a pas le temps et que voilà, et à la fois on est dans un tel état de choc que si au moins on sait ce que la personne décédée voulait ou ce qu'elle ne voulait pas, c'est quand même faciliter les choses.
On pourrait dire que c'est un acte d'amour.
C'est complètement un acte d'amour, je suis persuadée de ça. Et je comprends que ce soit difficile, hein, parce que si on en parle, ben on envisage, on imagine. Et personne n'en a envie, mais à la fois on ne peut pas faire autrement que de d'évoquer ces sujets-là parce qu'ils sont importants et parce que le jour venu on sera content d'avoir affronté cette discussion désagréable et puis si on le fait sous couvert d'humour comme moi, on fait des listes ça facilite aussi les choses.
Alors, votre style est souvent décrit comme sensible, lumineux et drôle, même quand vous abordez des sujets graves. Comment vous trouvez cet équilibre ?
Moi, je suis contente de faire rire plus que de d'émouvoir, parce que je trouve que c'est facile en littérature de mettre la larme à l'œil. Mais alors, de faire rire, c'est assez rare. Et quand, dans les retours de lecture, quand on me dit « qu'est-ce que je me suis marrée ?», eh bien, c'est vraiment ma plus belle récompense. Et là, c'est un des sujets les plus douloureux que j'ai traités dans mes romans, le deuil, la perte. Et à la fois, je ne voulais pas d'un livre sombre, je ne voulais pas d'un livre duquel on ressort déprimé. La vie se charge assez d'être déprimante. Et donc, je me dis, les mariages m'ont aidé à ça, à apporter de la joie, de la bonne humeur. Et puis moi, l'humour, c'est ce qui m'a... Je ne le fais pas exprès, ça fait partie de moi. J'ai toujours utilisé ça comme une arme pour justement affronter les sujets compliqués. Il y a une phrase, je ne sais plus qui dit l'humour c'est comme les essuie-glaces, ça n'empêche pas la pluie mais ça permet d'avancer. Et c'est complètement ça, de rire quand on est en deuil, de rire d'un sujet difficile, ça ne fait pas de nous un monstre. C'est juste que on a le droit aussi de continuer à avoir d'autres émotions que la tristesse, que la colère, que le chagrin, et ça ne fait pas de nous des personnes insensibles. Au contraire, je pense vraiment que parfois même ça fait du bien, justement dans les enterrements, quoi, quand quelqu'un évoque un sujet, un souvenir heureux ou drôle, on se rend compte que ça détend quand même l'atmosphère et que finalement ça fait du bien à tout le monde. C'est une respiration. L'humour, c'est ça, c'est des respirations. Et moi, j'essaie d'en mettre tout le long de mes romans parce qu'aussi, je trouve que ça permet de faire passer des messages plus facilement. Sous couvert d'humour, on peut dire plus de choses que quand on se prend trop au sérieux.
Alors, le titre Felicita évoque le bonheur. Comment avez-vous voulu relier ce mot au parcours de résilience ?
Parce que je voulais que... En fait, si mon héroïne devait résumer sa meilleure amie en un seul mot, qu'est-ce qu'elle aurait dit d'elle ? Et c'est ce mot-là qui lui vient à l'esprit, la joie. Parce que même si elle n'est plus là, et que ça fait beaucoup de peine, on ne peut pas réduire quelqu'un à ça, à sa mort, au trou béant qu'il laisse. Donc la Felicita, c'est ce que leur amitié lui a apporté, c'est ce que ça évoque la personne solaire qu'elle était, c'est tout ça. Et c'est surtout ben, la lumière au bout du tunnel, c'est dur à être de sonorité, au bout du tunnel. Et finalement, oui, c'est ça, c'est l'espoir. C'est de continuer à ressentir aussi des émotions positives malgré la perte.
Alors si Valentina devait résumer en quelques mots ce qu'elle a compris de la vie dans cette épreuve, que dirait-elle ?
Ah, c'est dur de répondre à ça parce que ça encore, ça voudrait dire que de subir des épreuves nous rend tout à coup plus sages ou plus... Je ne suis pas certaine que ce soit toujours le cas. Elle a renforcé son amour pour sa filleule. Ça lui a permis de faire le point aussi sur sa vie à elle, sur ce dont elle avait envie, etc. Et elle n'a pas eu le choix de toute façon. Parfois, on n'a pas le choix parce qu'on dit « Ah, oh, t'as été tellement forte, t'as été... » Mais en vérité, ben, juste on doit continuer à vivre et on ne peut pas faire autrement. Donc, ça fait pas... Les gens qui traversent ces épreuves ne deviennent pas des super-héros parce qu'ils ont traversé ces épreuves. Maintenant, ce qu'ils décident d'en retenir, d'en tirer, oui, ça peut les faire avancer sur leur chemin de vie. Dans le cas de Valentina, elle s'écoute plus. Elle décide de pas d'en faire une force parce qu'elle va mal de toute façon et ce serait trop facile que de résumer leur histoire à ça, mais en tout cas elle se dit j'ai pas le choix, je vais faire avec, il faut que je continue à avancer, comment je vais avancer, voilà, c'est surtout de se poser la question du comment, de l'après, de qu'est-ce qu'on devient quand on a traversé ça. Et bien sûr qu'elle n'aurait pas pris les mêmes décisions si sa meilleure amie était toujours là. Donc elle se prend un mur et puis ensuite il faut faire le choix du nouveau chemin emprunté. Donc c'est sur ça que le deuil l'a poussée à réfléchir.
Bah d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup apprécié dans ce livre que justement, jusqu'à la fin, on voit que Valentina... Elle est vraiment touchée par ce deuil-là, là où parfois on pourrait croire que voilà, on fait son deuil et on pourrait penser qu'à la fin du roman, eh ben ça y est, elle est plus forte et ouais, ça va mieux. Et vraiment jusqu'à la fin, moi je trouve que on voit l'évolution, on voit à la toute fin qu'elle prend aussi une autre direction, mais pour autant, on voit toujours que son chagrin, il est là. Et du coup, c'est juste.
Mais c'est comme si on nous ajoutait un membre. Je crois que quand on vit un chagrin si fort, on n'oublie jamais. Bien sûr, le temps fait son œuvre, on va mieux. Mais ça fera toujours partie de nous. C'est une cicatrice en plus. Donc non, à la fin du roman, c'est comme dans la vraie vie. Tout ne se résout pas d'un coup de baguette magique. Ça, j'y tiens vraiment, enfin, dans tous mes romans, à faire en sorte que ça... j'aime beaucoup aller happy end, je suis comme tout le monde, ça me fait du bien de les lire, mais je veux que ce soit des fins crédibles et que chacun puisse aussi se projeter, parce que, à l'inverse, ça pourrait être très douloureux de lire à la fin, elle est heureuse, tout se passe bien, c'est merveilleux. Et puis le lecteur en face, qui, ça se trouve, ça fait 3 ans qu'il est en deuil et il s'en est toujours pas sorti, il pourrait culpabiliser. Et puis en réalité, c'est pas la vraie vie. Moi, je vous le disais tout à l'heure, ça fait 12 ans que j'ai perdu ma grand-mère. Dès que je dis grand-mère, hop, ça appuie, ça me fait encore mal. Et ça fera toujours mal. Et c'est juste maintenant, je fais avec et je comprends que c'est aussi. Plus on a aimé, plus c'est douloureux. Donc j'espère souffrir encore longtemps parce que ça voudra dire que ça aurait été à la hauteur de l'amour qu'elle m'a porté. Donc bien sûr, à la fin du roman, non, tout n'est pas tout rose, et parce que la vie, c'est pas ça, quoi.
Donc l'épreuve de la perte du deuil permet de se découvrir et aussi de trouver des ressources en soi, de se réinventer d'une certaine manière.
Oui, bien sûr. Mais c'est quand on est face aux épreuves qu'on se rend compte à quel point on est fort, qu'on est capable d'affronter des choses. Justement, quand on ne les vit pas, on se dit ben, « moi, sa place, on en revient à ça ». Mais en fait, quand on y est, à cette place-là, on va puiser parce qu'on n'a pas le choix, plus loin, plus fort. Et Et oui, on se découvre une force qui ensuite, c'est acquis. On sait qu'on est capable d'affronter ça. Et peut-être que la fois d'après, on se dira, mais rappelle-toi, tu t'es déjà passé par là ou tu as déjà vécu pire et tu t'en es sorti. Donc c'est comme un bagage supplémentaire qu'on ajoute, douloureux peut-être, mais qui un jour nous fera nous dire que voilà, on peut le faire. Si on est assez fort, si on va y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Il y aura des rechutes, il y a des rechutes tout le temps, c'est normal. Ça aussi, ça fait partie du processus. Mais finalement, on reste debout quand même, quoi.
D'ailleurs, avant de passer aux questions du public, une dernière question. Il y a une suite à Felicita qui est intitulée Villa Gloria. Sans trop en dévoiler, comment vont Valentina et Bianca ?
Alors, c'est pas réellement une suite. On peut lire Villa Gloria sans avoir lu Felicita. Mais c'est vrai que pour la première fois, j'ai récupéré d'anciens personnages pour en faire vraiment des vrais personnages secondaires dans mon dernier roman, donc dans Villa Gloria. Parce que Valentina et Bianca, elles ont eu une histoire difficile et que tout le monde avait envie d'avoir des nouvelles, moi la première. J'avais envie de les intégrer à cette histoire qui est plus joyeuse, de leur offrir une semaine de vacances. Ça me permet de donner des nouvelles aux lecteurs. Et moi, j'avais très envie, encore une fois, très égoïstement, de passer encore du temps avec elles, de me remettre dans la peau de Valentina, de la petite Bianca qui a grandi. Et c'est une façon plus douce de clore leur histoire. Et je crois qu'elles vont bien. Dans ma tête, elles sont leur amour, leur lien est si fort que ça les aidera toutes les deux à affronter le reste.
Merci beaucoup, Serena Giuliano, pour cet échange riche et sensible autour de votre livre, donc Felicita, et de ce thème universel qui est la résilience et le deuil. Nous allons poursuivre donc ce moment en toute convivialité, puisque vous pourrez rencontrer Serena lors d'une séance de dédicace ici même au théâtre. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'acquérir son livre, il est disponible à la table de notre partenaire, la librairie du théâtre. Mais tout de suite, un temps d'échange avec le public vous est donc proposé.
Nous vous rappelons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la quinzaine du deuil coordonnée par l'association Couples et Familles de l'Ain. Un collectif de 40 acteurs vous propose 28 actions sur tout le département. On est à la moitié de l'événement, mais il reste encore plein d'animations jusqu'au 15 novembre. Vous trouverez le programme dans le hall du théâtre et ainsi que sur la page Facebook de Couples et Familles de l'Ain.
Merci Lauriane, merci à nos partenaires, la scène nationale de Bourg-en-Bresse, la librairie du théâtre, et merci à vous toutes et tous pour votre présence et votre écoute, et encore merci Serena.
Merci beaucoup.
À bientôt sur les bonnes ondes de Radio B.
Innocente in mezzo alla gente la felicità e restare vicini come bambini la felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che va e la pioggia che scende dietro alle tende la felicità e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità, felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa. Con